À chaque fois que j'ai posé la question dans un temps plein de collaboration libérale, quel est le temps que le collaborateur libéral est censé pouvoir allouer au développement de son propre cabinet et donc pas à son patron, enfin pas à son client principal qui est le cabinet d'avocat pour qui il collabore. Et bien à chaque fois en commentaire, vous allez avoir une salve de personnes qui vont venir me faire remarquer que j'ai rien compris parce que globalement le contrat de collaboration libérale ça se pense pas en temps, il n'y a pas de temps de travail, c'est pas des salariés donc il n'y a pas de temps de travail. Alors je suis pas du tout une spécialiste du temps du droit de social hein, et encore moins de la question du temps de travail en droit social, mais j'ai quand même l'impression que même, enfin je veux dire dans le salariat évidemment ça se pense en temps mais pas tout le temps. Et en fait, notamment avec cette histoire de forfait jour, et je crois comprendre que d'ailleurs, le forfait jour, il n'économise pas complètement la question du temps de travail. Question qu'il faudrait que je pousse pour pouvoir en parler avec beaucoup plus de précision. Mais voilà, ma compréhension quand même des choses pour avoir regardé deux, trois trucs en diagonale, c'est que c'est pas parce qu'on est au forfait jour que c'est YOLO et que en fait on peut faire bosser son salarié sans aucune considération de notion de temps de travail. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc la collaboration libérale, comme le soulignent à foison les avocats et notamment comme il m'est fait remarquer à chaque fois que je soulève un petit peu cette question-là de la contrepartie et le cas échéant de la question du temps. En tout cas, ce que le collaborateur libéral doit pouvoir, entre guillemets, enfin bref, en fait, on peut pas complètement s'affranchir de la notion de temps. Je suis désolée, dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même régi, il se trouve que le temps fait partie des unités de mesure de beaucoup de choses, quoi. Eh bien, je trouve ça lunaire de dire qu'on peut s'affranchir de la notion de temps, mais pourtant, c'est ce qui est avancé dans la profession d'avocat. Et alors, ça me fait, en fait, et c'est là où est venue mon étincelle de connexion de neurones, en fait, ce que je trouve très cocasse, c'est que si on oublie la collaboration libérale et qu'on demande au cabinet d'avocats et qu'on demande à un avocat comment il facture, et qu'en fait, on pense facturation, et ensuite qu'on aborde le sujet du forfait, vous allez avoir des avocats qui vont vous dire bah en fait le forfait je déteste ça et j'en fais pas parce que en fait on sait jamais combien de temps vont nous prendre les choses et donc voilà, donc en fait j'aime pas les forfaits parce que je sais pas combien de temps va me prendre le truc et donc voilà le fait de dire bah tel accompagnement ça coûtera tant quel que soit le temps que ça va me prendre. Bah, en fait, ils n'aiment pas ça. Et donc, ce qui est en fait finalement assez drôle, c'est que vous avez un refus d'obstacle de beaucoup de personnes dans la profession sur la notion de forfait, c'est-à-dire un montant fixe pour couvrir un truc avec une incertitude autour du coût et le coût chez un avocat. Et comme pour toute profession de conseil, en réalité, c'est à titre principal le temps qu'il va passer à produire son expertise. Et donc ça, c'est pas OK et ça crée des résistances et voilà. Mais en fait, c'est complètement OK d'avoir en fait un énorme forfait. Parce que la collaboration libérale, finalement, c'est un énorme forfait, quoi. C'est un énorme forfait. Parce que, d'ailleurs, c'est un forfait dont on ne connaît pas la délimitation. Et donc, ça m'a. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, au-delà de l'aspect juridique de. Un bon contrat, c'est des obligations réciproques qui sont claires et nettes pour tout le monde. Tout ce qui fait que derrière aussi, même les bonnes pratiques de facturation, elles ne sont pas. Et on ne les retrouve pas non plus dans la collaboration libérale, puisque aujourd'hui, c'est pareil. En fait, un avocat a l'obligation de fournir une convention d'honoraires qui précise qu'est-ce qui va être couvert par l'intervention de l'avocat Et comment est-ce que cette intervention, telle que cadrée, comment est-ce qu'elle va être facturée? C'est-à-dire, qu'est-ce que le client va devoir à l'avocat pour cette prestation? Est-ce qu'il va devoir, en fonction du temps passé? Donc, dans ces cas-là, il faut définir, entre guillemets, le temps passé, enfin l'estimation, enfin tout simplement juste c'est au temps passé, donc c'est X euros, et donc si je travaille 15 heures, c'est 15 fois X, enfin le montant du taux horaire. Est-ce que c'est un temps passé capé avec une limite en haut? Est-ce que c'est un temps passé avec un minimum, une forme de franchise? Est-ce que c'est un forfait pur et donc c'est un montant, et puis quel que soit le temps que prend le fait d'arriver à un résultat donné, ou le fait de mener telle procédure ou telle opération, eh bien ce sera le même montant. Bref, mais en tout cas, toutes ces questions-là, elles doivent être détaillées. Et qu'est-ce que ça recouvre? Et si on passe hors scope, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un autre forfait? Est-ce que c'est du temps passé? Est-ce que quoi? Bon, là, chacun a sa tambouille, de façon plus ou moins vertueuse d'ailleurs, mais en tout cas, ça, normalement, c'est obligatoire, en fait, dans la profession d'avocat. Une convention d'honoraire, elle doit prévoir qu'est-ce qui va être fait par l'avocat et quelle va être la méthode de détermination du prix de son intervention. On ne le retrouve pas non plus dans la collaboration légale pour les questions que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, en fait, voilà, j'ai trouvé ça très cocasse, en fait, de me rendre compte, de faire ce parallèle, non pas juste entre la collaboration libérale et, on va dire, si on est dans un régime salarié, juste le droit du travail, et à quel point est-ce que ça cadre ou pas, mais tout simplement de ramener sur le libéral pur, parce que peut-être que c'est ça le petit chaînon manquant dans ce que je suis en train de vous raconter et qui en fait est le chaînon dans ma réflexion, c'est que dans les commentaires que vous allez trouver sous mes posts, quand je dis la collaboration libérale, enfin le temps pour le cabinet versus le temps pour sa propre activité, et les personnes me disent non mais la collaboration libérale ça se réfléchit pas en temps, et puis en général elles en rajoutent une couche sur le côté, en fait vous avez rien compris, c'est pas la même posture, le cabinet c'est votre client, et donc vous n'êtes pas le salarié de votre cabinet, c'est votre client, et donc c'est pas la même posture, et vous êtes un entrepreneur, et voilà. Et moi, à la limite, cet argument, il m'irait, mais en fait, il me va même pas, tout simplement parce que dans leur posture d'entrepreneur, et quand les avocats sont amenés à réfléchir leur prix, à poser leur prix, et à faire une proposition d'intervention pour un client, ces mêmes personnes, à quoi est-ce qu'elles vont, à 99%, se référer pour déterminer le prix de leur intervention, c'est leur temps de travail. Elles vont faire, si elles font un forfait, elles vont le faire sur la base d'une estimation du temps qu'elles vont passer à faire la chose en question. La facturation à l'heure, qui est quand même encore largement répandue, ça n'est rien d'autre que juste calquer sa posture d'entrepreneur, en fait, juste de vendre du temps, et de vendre du temps sans le caper, quoi. Vous voyez, juste après on fait du write-off et tout machin, mais ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, facialement, on s'en réfère au temps. Pareil pour la question de tous les modes de réflexion des avocats sur ce qu'ils vendent. Je connais en fait, somme toute, assez peu d'avocats. Il y en a quelques-uns, hein, mais il y en a assez peu qui ont une réflexion avec un business model un peu plus global, et qui savent qu'ils sont, entre guillemets, à perte sur certains trucs, mais qui vont gagner par rapport à d'autres trucs. Enfin bref. Mine de rien, leur première unité de réflexion, quand ils sont dans cette posture entrepreneuriale avec leurs propres clients, c'est leur temps. Voilà. Et donc, ce parallèle, j'avoue, je l'ai trouvé cocasse, en fait. Ça me semble d'une évidence telle que du coup voilà, je trouve ça encore plus cocasse. Et c'est, je comprends pas comment j'avais pas moi-même fait ce propre parallèle entre eux, mais c'est quand même fou que cette profession qui est la première à dire pour les collaborateurs qu'ils devraient pas penser en temps parce que ils sont pas salariés et que donc eh ben, ils doivent pas penser en temps, ils doivent penser en autre chose. Et le cabinet, c'est un client et donc c'est une autre posture qui, posture manifestement, devrait conduire à faire abstraction totale de la notion de temps. Mais en fait, quand ça les concerne pour leurs propres clients, et ben là, pour le coup, c'est complètement OK d'être focus et d'avoir pour unité de référence pour la détermination de ses honoraires le temps.